Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 176. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Alors, enregistrement après plus de quoi? Ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré, les amis.
Ça fait ouais, un mois?
C'est passé tellement de choses, même, dans le dernier mois.
Ben oui,
on a été off-sync, vraiment. Là. On a été genre complètement sur des continents différents, littéralement. Là.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Il en manquait tout le temps un. Là.
Dans plein de pays. C'est assez épique. On va peut-être faire un retour rapide, là, un peu chacun, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois. Notamment, toi, Pascal, tu étais au Bafici. C'est à Buenos Aires.
Oui, Buenos Aires, mais c'est insane ce festival-là, pour vrai, il y a tellement de films au programme, il faut vraiment que vous sachiez ça, c'est parce que, en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est parce que c'est le plus gros festival en Amérique latine, ok, c'est le plus gros festival en Amérique du Sud, mais c'est que ça a une vocation, un peu comme les rendez-vous du cinéma québécois, une vocation pro-Québec, mais c'est que ce festival-là, c'est vraiment la fête du cinéma, de langue espagnole, donc il y a une compétition d'Argentine, il y a une compétition sud-américaine, tu sais, fait ce que je veux dire par là, c'est que pour la compétition internationale, c'est excessivement sélectif, tu sais, c'est un festival, c'est quand même vraiment un big deal, tu sais, d'être sélectionné au Bafici, c'était pas un film de langue latine, mais il y a tellement de films comme argentins, puis tout ça, c'est vraiment la fête de leur cinéma. Je trouve ça génial, en fait. J'étais vraiment en immersion totale là, là-dedans. Mais je vais quand même vous parler d'un film. Mettons que je le fais en un film. Là. Je vais vous parler d'un film qui n'est pas un film argentin ou brésilien ou tout ça. Là. C'est le film When She Runs de Robert Machoyan et Rodrigo Ojeda Beck.
Oui.
Et ça, Paul, est-ce que ça te rappelle quelque chose?
Ben oui. C'est ça, c'est le petit film qu'on avait découvert au Festival de Québec.
Ouais.
C'était quoi déjà le titre?
God Bless the Child,
oui,
qui était sur nos top 10 respectifs l'année où c'était sorti. Puis là, écoute, moi je trouve ça vraiment drôle parce que c'était juste une petite réflexion. Tu sais, comme je vous dis, je parlerai pas de tous les films que j'ai vus. J'ai quand même vu Pink Flamingos projeté en pellicule pour la première fois de ma vie. Là. Ça, je peux quand même vous le dire.
Vrai?
Juste. Ouais, je l'avais jamais vu au complet.
Est-ce que le caca granuleux est encore meilleur que le grain de la pellicule?
Ah, écoute, c'était très granuleux, là. C'était vraiment... c'était dans une belle salle, là. Puis là, c'est après ça, c'est de regarder les gens qui sortent de la salle. Tu sais, t'es comme... Tu te sens sale en sortant de la salle. Puis là, tu regardes tout le monde. Puis tout le monde se sent bizarre. Puis là, c'était merveilleux comme expérience.
Mais le contexte, ouais, le contexte, ça ressemble à quoi? Parce que, mettons, il y a des festivals où tu projettes Pink Flamingos, puis c'est un délire, là, tu sais, mettons, un Fantasia à minuit, mettons, là. Pink Flamingos, ça marche bien. Dans ce festival-là, ça collait-tu?
C'était dans le cinéma Gaumont, okay? C'est une salle magnifique, à côté du Parlement, genre,
ouais.
Côté de la Casa Rosata, là, genre un building magnifique à Buenos Aires, en après-midi. Tu sais, c'était vraiment pas en mode midnight movie d'un festival de films de genre. Là. C'était vraiment en mode genre festival d'auteur. Là.
Ouais.
Fait que c'était quand même drôle. Mais bon, mais ça, je le passe vite. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus sur Pink Flamingos. Ben, en même temps... Il y aurait plein de choses à dire.
Ouais, je pense qu'on pourrait s'en parler longtemps. Là, on pourrait faire un épisode de spécial Pink Flamingos.
Ouais, ouais, quand même, procédons. Mais juste pour dire que ça m'a fait vraiment un petit velours. Parce que, tu sais, donc, les faux tatouages étaient ben, le seul film canadien de la compétition internationale. C'était vraiment, vraiment flatteur. C'était vraiment cool. Puis justement, dans la compétition internationale, il y avait le film de Robert Machoyan et Rodrigo Ojeda Beck. Puis là, c'était comme la première fois que je me ramassais finalement un peu dans la même compétition. Pas au niveau local, mettons pas au niveau québécois ou canadien, mais avec des cinéastes que je suis legit, un peu, je suis vraiment fan, je suis comme fan de leur travail.
Mm-hmm.
Puis j'ai comme eu la réflexion que j'imagine, ça va juste être de plus en plus le cas, au sens où, ben oui, c'est sûr, ça va finir par arriver que des cinéastes que je suis des fois film après film ou que j'ai découvert, puis que là, tout à coup, tu sais, je sais pas, tu les rencontres, puis c'est un peu comme, j'ai comme trippé sur God Bless the Child, puis quelque chose de vraiment merveilleux derrière ça. Mais je vous fais juste un compte-rendu méga rapide parce qu'on a comme mille choses à se dire. Là. Mais When She Runs, en fait, ça m'intéressait aussi par son sujet parce que c'est un film sur une coureuse. Donc, c'est Sarah préfère la course, version indie-américain. C'est ça?
Mais... C'est Michel Lanto.
Et... Non, mais c'est sur une jeune mère, en fait, qui est en planification d'une compétition importante. Puis, elle laisse un petit peu ses enfants à son chum. Elle a l'air d'avoir une relation un peu bizarre, un peu comme tumultueuse avec son chum. Mais là, elle est comme dans un mode de vie un peu socialement difficile, mais il faut qu'elle se prépare pour sa compétition. Puis, il y a comme plein d'autres facteurs dans sa vie sociale et personnelle qui joue contre elle. Fait que ça, ouais, c'est un beau récit, vraiment enveloppant au niveau... on est super investi avec la comédienne qui est aussi la co-scénariste. Ce qu'elle avait aussi fait avec God Bless the Child, c'était les parents, je pense, des enfants qui étaient la co-scénariste aussi. Fait que tu sens vraiment que leur démarche artistique est cohérente. Puis là, ce cas-ci, la comédienne coureuse, là, c'est une réelle coureuse aussi, qui s'appelle Kirsten Anderson. Elle est vraiment, le film est vraiment sur ses épaules ou sur ses jambes, là, si on veut faire un mauvais jeu de mots. Puis, puis ouais, juste pour dire, c'est ça, c'est une belle petite découverte, un film très court, je pense, c'est même pas 1h20 et tout ça, mais on est un bon drame, puis avec du sport, avec une psychologie d'athlète bien représentée, puis c'est rare à l'écran. Donc, ouais, je voulais juste le souligner. C'est pas nécessairement un coup de cœur au même titre que God Bless the Child depuis l'être, mais vraiment, c'est des cinéastes à suivre ou à mettre sur votre radar. Mm-hmm. Fait que, ouais, ça, c'est quoi, c'est mon bafici en un film, là. Procédons, procédons.
Puis, en espérant que le film se retrouve peut-être justement au Festival de la Ville de Québec, qui avait projeté leur dernier film.
Ça se pourrait peut-être, oui.
Ouais. On va surveiller ça. Pour ta part, Rémi Fréchette, tu retournais pour la troisième fois au BIF. Tu nous as fait un beau compte-rendu sur le site de Point de vue.
Ben ouais, c'est un peu, c'est un peu mes patterns. T'sais, comme Pascal fait beaucoup de listes, moi j'aime ça faire... Là, j'ai toujours fait le journal de bord avec Fantasia aussi. Mm-hmm. Puis on dirait que je me sentais comme mal de passer à côté. Puis j'ai fait « Oh fuck off, là, je vais écrire des petits résumés pour chaque film. » Mais fait que je pense que comme tout mon top est là, tu sais, j'entrerai peut-être pas en détail dans les films. Là. Mais ouais, c'est spécial. Allo Bif, là, à chaque fois, c'est comme tellement une expérience incroyable. Un beau party, c'est très festif pendant les 10 jours du festival.
Et là, en plus, c'était la première mondiale, c'est ça, de Montréal Dead End.
Exactement, puis c'était pas la version finale qu'on présentait, puis ça, le BIF le savait. C'était dans le fond, un cut à 95%. Comme c'est une anthologie, l'ordre des segments étant quand même important. Puis, tu sais, le film est pas mal là, mais on voulait le voir avec les réactions du public. Tu sais, je compte d'ici là aussi, d'ici la prochaine projection en Fantasia, réinsérer des establishing shots pour les quartiers, changer quelques polices, changer quelques effets spéciaux à travers le film. Mais fait que c'était comme une première pour tester avec le public. Puis le public du BIF est ultra réactif. Si vous m'avez déjà entendu parler du festival dans un autre épisode où j'en revenais, ben il y a des codes au BIF qui sont là, qui sont dans les salles. Puis c'est vraiment trippant de présenter un film là parce que le public est là en entier. Puis même quand ils aiment pas ça, ils vont gueuler des trucs... limite méchant ou... Ben, pas méchant, mais tu sais...
Il n'y a pas de filtre.
Non, c'est ça, il n'y a pas de filtre. Les gens ont bu des bières à 12% puis ils crient tout ce qui leur passe par la tête dans la salle. Ça fait partie de la magie du festival. Oh yeah. Fait que, tu sais, comme cinéaste, faut que tu sois dans la game, là. Tu sais, faut que tu acceptes ça puis let's go, là. Mais tu sais, overall, on a eu des bonnes reviews, un peu ce que je m'attendais. C'est une anthologie, donc, tu sais, il n'y a personne pour qui le film va être un film parfait. Mais pour chaque personne différente, il y a des trucs... différents trucs qui vont leur plaire. On a une super belle réception. Puis c'était au début du festival, fait que j'ai pu, comme à chaque année que j'y vais, y aller comme cinéphile aussi. Puis j'ai vu 18 films, je pense que c'était mon compte final. En plus de quelques expériences VR que j'ai eues avec comme une sélection de films d'horreur en VR.
Okay. Ouais.
Puis j'ai rencontré Lloyd Kaufman qui était ça, c'était vraiment c'était une journée, c'est la veille de mon départ en plus. C'est les organisateurs du BIF qui sont devenus des amis par la bande qui m'ont challengé de mettre le costume de Toxic le Ravageur, Toxic Avenger sur scène avec Lloyd Kaufman. Puis c'était même pas un challenge, je pense que j'aurais payé pour le faire. Fait que, tu sais, je joue pas au soccer dans la vie, on s'entend, mais il y avait une game de soccer un peu à la joke zombie contre journaliste, ils ont organisé ça. Puis ben, j'étais là en Toxic Avenger jouer au soccer contre des journalistes belges. C'est vraiment absurde là, ce qui se passait. Là.
C'est tellement absurde ce que tu dis là, man. C'est ouais, grave, c'est comme.
Tu sais, c'est comme, c'est fuck all, là. C'est tellement étrange comme expérience, là. Ça se peut pas, là. Puis j'avais le masque, dans le fond, Lloyd Kaufman traîne dans tous les festivals, qui est tout pété, qu'il y a sûrement 300 bénévoles qui ont sué dedans à travers les années, là. Fait que j'avais ça sur la tête, là, avec le jus de 300 bénévoles à jouer au soccer dans un parc, là. C'était vraiment fucké, là. Mais c'est assez mémorable.
Mais... Moi, il y a un film que j'aimerais que tu aies un petit peu plus en détail que ton carnet de bord, si je peux me permettre, le Paul, de te prendre le flambeau
Ben oui, vas-y, vas-y, vas-y,
de
ping-pongeur. Bon. Mais How to Talk to Girls at Parties, un petit mot sur ce film-là, peut-être?
Ben écoute, c'est le premier que j'ai vu du festival, puis c'est resté pas mal mon top. Là. Peut-être à part, là, j'ai mis Chronos, j'ai triché un peu, là, vu que Del Toro était là, puis le film était, est vraiment très très bon. Là. Mais How to Talk to Girls, moi, je trouve que c'est un... John Cameron Mitchell, parce que l'autre qui a Mitchell dans son nom, là, qui a fait It Follows, là,
qui est à Cannes d'ailleurs en ce moment.
Ouais, non, c'est ça, c'est là, John comme, Cameron qui Mitchell. Va être à Fantasia aussi. Là. Mais bref, il revient un peu à sa racine de Hedwig, en fait, son premier film, là, Hedwig and the Angry Inch, qui était un film très punk dans lequel il a joué. Puis c'est un réalisateur qui va très loin aussi dans la sexualité. Dans son film Short Bus, où il y avait le des scènes de fellation on screen, mais c'est une comédie super légère, une comédie queer, où tout le sexe est décomplexé. Puis c'était un peu assagi avec son dernier Rabbit Hole, le film avec Nicole Kidman. Puis là, il revient vraiment à sa racine, où c'est il exploite, il parle de la sexualité, de l'identité, du genre. Puis c'est un gros délire, là. C'est vraiment un film de festival, si je peux me permettre. Je sais qu'il l'a présenté à Montréal au cinéma L'Amour, au dernier Montréal Pop, puis ça devait être incroyable parce que c'est un peu ça, c'est un peu le côté underground du film dans lequel il est allé. Puis c'est le fun parce que là, il a comme une bonne réputation, puis il a pu utiliser ça pour y aller à fond dans son délire de sci-fi et de sexualité dévergondée. Dévergondée, c'est pas positif, hein. Peut-être pas utiliser ça, là. Mais bref.
Ben non, c'est dévergondé, ça va.
Mais tu sais, il va à fond, là, puis il y a un super bon casting. Il y a entre autres Nicole Kidman, qui a la coiffure de David Bowie dans Labyrinthe, qui est à fond dans son rôle. Elle se donne... elle est comme la leader d'un band punk. Le film, c'est à propos du punk dans les années 70, puis le film est punk. C'est il est à l'image de son sujet, de ses thématiques. Ouais, c'est un gros, gros coup de cœur. Je sais pas quand il va sortir au Canada, mais...
Il sort dans comme 2 semaines, là.
OK. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est un easy watch, puis c'est un film qui va ailleurs, c'est un film qui surprend. Il y a toujours des surprises, ça s'essouffle pas pantoute, il y a pas de moment où ça devenait un peu long. Il y a plein de codes du genre, tu sais, de la comédie romantique, puis il y a de la science-fiction. Il y a du sexe anal avec quelqu'un qui se clone en faisant du sexe anal. Il y a des affaires comme ça, là. Tu sais, c'est comme... c'est des trucs comme un peu what the fuck, mais... C'est comme ça amené avec le doigté d'un John Cameron Mitchell, là. Donc voilà.
Pareil, hein?
c'est ça que je peux dire. Puis tu sais, si je veux juste conclure sur le bif, il y avait la conférence de le masterclass de Guillermo del Toro qui était juste épique. Ouais. C'était incroyable. Il est passé à travers sa filmographie. Il a parlé de tous les longs métrages qu'il a fait, puis comment ça, toute sa carrière a été difficile, dans le fond. Même Shape of Water, il a dit que c'était un des tournages les plus difficiles qu'il a eu. Il a toujours eu des bad luck à tous les jours. Il dit que ses meilleurs films, c'est ceux qui ont eu le plus de difficultés. Puis c'est à chaque fois les films qu'il s'est dit, celui-là, ça va être mon dernier parce que je suis plus capable de faire du cinéma puis de dealer avec les studios. Puis c'est ça, il dit que c'est arrivé 3 fois dans sa carrière, puis les 3 fois, ça a été ses meilleurs films. Puis il parlait de Chronos, il a parlé de Devil's Backbone et de non, c'est vrai, il a parlé de Labyrinthe de Pan aussi, qui a été très difficile, puis et voilà, Shape of Water, là. Super généreux, il était censé faire 2 heures, il a fait 3 heures, il a fallu que les gens qui organisent ce festival, il fallait qu'ils aillent sur scène comme, ouais, il faudrait qu'on termine, parce qu'un film, genre dans, tu sais, en fait, le film a commencé 1 heure en retard, parce que Guillermo voulait juste continuer à parler, puis à étirer le truc.
Ah, mais c'est tellement un vrai passionné, là, tu sais. C'est comme One of Us, un peu, là, mais comme qui a eu vraiment beaucoup de talent, puis beaucoup de chance dans sa carrière, là, mais t'as vraiment l'impression qu'il a gardé la tête sur les épaules, là.
Ouais, c'est ça, puis il est drôle, il est super... Il est super vivant dans ce qu'il parle, il est très... il a de l'autodérision aussi sur les fautes dans ses films, tu sais, c'est vraiment... Il est vraiment généreux là, de sa personne. Là. Puis c'est ça, là, c'était vraiment spécial de voir ça sur scène. Puis au bif, je n'avais parlé dans un autre podcast, mais il y a la tradition de chanter sur la scène. Puis il a fait un peu le prank de « Ah, oh, je savais pas qu'il fallait préparer une toune. » Puis 2 minutes plus tard, il y a genre 4 mariachis qui débarquent sur la scène puis il fait une toune mexicaine en entier avec des mariachis.
Oh, yeah.
C'est genre, c'était vraiment spécial de voir ça, là.
Of
j'ai
course.
Comme vraiment eu un 10 jours là, comme assez surprenant. Là. Des trucs un peu what the fuck se sont passés. Là. Fait que nice. Voilà, là, ça c'est mon bif. Puis là, puis Tu sais, si je veux juste se bifurquer vite vite, je suis en plein Kino Cabaret, j'ai tourné un film hier pendant 15 heures, puis je le présente demain soir. Fait que je prends comme un break de montage là pour parler sur le podcast, ça fait du bien là quand
one même, of us, de sortir one tout seul.
c'est ça, on est comme tout speedé là, on est tout genre sous influence de quelque chose on dirait en ce moment, mais bon.
Ouais, ben je suis en train de boire un café, tu sais, on enregistre les 10 heures puis je suis un café là, fait que ça ça vous décrit un peu la situation là.
Bon, toi, tu bois quoi, Paul? Toi, t'es en mode...
Moi, j'ai un Red Bull parce que je commande 3 pays en ce moment, puis je suis un peu décalé, puis c'est un peu
le bordel. Ouais, c'est ça. Ben, toi, t'arrives de où, Paul, là?
Ben, c'est ça. Là, j'arrive d'Allemagne. J'étais là sur le jury de Fipréchi, en fait, du festival Oberhausen Short Film Festival, qui est un des plus gros festivals au monde, mais pour le court-métrage. Fait que personne connaît ça. parce qu'évidemment, le court-métrage, ce sera jamais... Non, mais c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, le court-métrage sera jamais big, et ce que ça permet, c'est vraiment une ambiance décontractée au festival, en fait. On fait des rencontres vraiment aisément, il n'y a pas tout le gros côté protocolaire, où, tu sais, il faisait super beau en plus, là, il faisait comme 20-25 degrés toute la semaine, on buvait de la bonne bière fraîche allemande, tu vois, aux projections, c'est vraiment cool, tout le monde ça s'aborde sans trop de complexe. Et ben c'est ça, moi j'ai écrit un petit journal aussi quotidiennement sur Point de vue, donc vous pourrez aller lire ça si ça vous intéresse. Et ce qui est quand même drôle, c'est que le film duquel on a remis le prix parmi les 53 films de la compétition internationale, c'est un film donc sans scénario, sans acteur, sans dialogue, une espèce d'essai qui filme Moscou, mais à l'envers. Ça a l'air vraiment simple comme ça, puis ça l'est jusqu'à un certain point, mais s'exécuter avec tellement de comme une perfection dans ce que vous voulez faire, que c'est vraiment saisissant. Puis il y a vraiment tout un travail sonore qui apporte vraiment une espèce d'ambiance encore plus un peu galactique. Là. C'est un film dont on a toujours conscience de l'espace, là, parce qu'étant donné que comme le ciel est dans le bas de l'image, puis que fait que là, c'est comme si t'as toujours l'impression d'être vraiment comme... Il y a une espèce de gros vertige qui s'installe. Donc, c'est vraiment saisissant comme film. Et peut-être juste un autre court-métrage que je voudrais souligner, parce que c'est vraiment une de mes plus belles expériences au festival. C'est un court-métrage de 80... Parce qu'en fait, le festival met vraiment de l'avant les films du passé, puis des archives, puis des films restaurés et tout ça.
Ouais.
Et il y a un film allemand de 84 qui s'appelle Rangerer, qui est sur des... je ne me rappelle plus du terme exact, là, mais c'est des employés de stations de chemin de fer, en fait, qui s'occupent à lier et délier les wagons. Et quand les trains donc, de marchandises arrivent à la gare, au terminus, et le film est d'une beauté incroyable. Puis, tu sais, je me demandais un peu, parce que je prenais des notes tout au long de mes visionnements, puis je me disais, il me semble que je suis dur, puis il me semble que, tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand film qui m'intéresse en compétition ou que je trouve particulièrement beau ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai revu ce film-là, puis je suis comme fait, OK, non, c'est vrai, ça existe des beaux films. Celui-là, c'en est un exemple. Tu sais, c'est juste que, bon... ce qu'il faut savoir d'Oberhausen, c'est que ils ont toujours vraiment une approche très, très expérimentale et très axée sur les films à petit budget, là, puis Do It Yourself, puis des films indépendants, des premiers films.
Ouais, ça file un peu comme Slamdance, un petit peu cette ligne éditoriale-là aussi. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement des films avec la production value. Même des fois, il y a même des films techniquement un peu croche par moment, mais toujours avec au moins des bonnes idées, tu sais, avec comme quelque chose de viscéral, qui a du guts, puis qui est bien exécuté. Mais des fois c'est pas la technique, puis effectivement ça peut être un peu déroutant, t'es comment ouais ok
ouais, puis même parce que c'est ça, contrairement à d'autres festivals, c'est que leur compétition c'est vraiment comme une sélection de films expérimentaux, alors que ces films là ça se retrouverait mettons dans une section comme les nouveaux alchimistes au festival du nouveau cinéma ou quelque chose comme ça, tu sais. Il y avait vraiment très peu de films classiques dans la compétition. Ou même des films comme agréables entre guillemets là. Mais malgré tout, vraiment super expérience. L'Allemagne c'est génial, je conseille à tout le monde d'y aller. Et là je suis comme quelques jours à Montréal, puis là je suis comme là je viens de refaire ma valise, parce que là dans le fond demain je pars à Cannes.
C'est dur la vie.
Non, je sais, c'est
non,
pas évident.
L'Allemagne s'en va à Cannes, c'est super plate.
Ouais, je sais, là, c'est vraiment tough là, puis là je dors pas beaucoup.
Mais c'est vrai que c'est fatigant, par exemple. Ça, je te l'accorde. Moi, dormir dans les avions, je dors pas. Ça me prend mes journées, m'en remettre. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est quand même éprouvant physiquement. Je veux dire, c'est beaucoup de plaisir, c'est des expériences, c'est du condensé de vie. C'est magique, c'est magnifique. On se plaint pas de ça. Mais c'est vrai que c'est quand même
comme, c'est quand même fatigant, là, on va se le dire. C'est au festival, que... tu te couches pas à 8 heures le soir, là, on va se le dire, ça aussi. Là.
Ouais, fait c'est que, ça. Ouais. Puis c'est aussi qu'en 2018, là, je commence à porter quand même pas mal de chapeaux, là, puis ça commence un peu, des fois, là, je deviens comme confus, là, comme c'est quoi qu'il faut que je fasse déjà, genre, j'ai... parce que là, j'y vais à Cannes avec mon projet plein écran. Ouais. À Oberhausen, j'étais invité sur le jury parce que je suis comme critique, puis membre de la FIPRECHI, puis des trucs comme ça. Là, ça devient que comme j'ai tellement de courriels à répondre, puis de trucs à faire. Fait que j'amène mon portable à Cannes, puis je pense qu'à tous les matins, je vais être comme sur mon ordi pendant un bon bout. Mais j'ai fait mes demandes de billets, donc on va espérer que... surtout le Lars von Trier, j'aimerais ça rentrer, là. Ça serait nice, et donc souhaitez-moi bonne chance pour ça.
Ouais.
Et voilà. Et toi, Pascal, il y avait un truc que tu voulais aborder à propos de Cannes. Qu'est-ce qui se passe là?
Ben là, là.
parce que t'entends parler de Guillermo del Toro qui dit que c'était dur de faire un film là. Là, tu te dis, là, t'es comme d'un côté, t'as Terry Gilliam qui est genre old man.
Ben, c'est ça. Je veux en parler de ça parce que est-ce qu'on mettons qu'on raconte en pro, pas en prose parce qu'on écrit pas là, mais mettons qu'on essaie de relater la dernière semaine et demie. Parce que, à un moment donné, moi, là, il y avait un effet de saturation, puis j'étais comme... Je regardais tout le temps si c'était comme soit The Onion ou, tu sais, comme, ben, ou que c'est carrément des fausses nouvelles, là, parce que, tu sais, c'est tellement un fait connu que ce film-là est un film maudit. Et là, t'es comme, t'es évident, puis un ACV, la première affaire que j'ai faite, c'est comme, OK, est-ce que cette source est valable? Tu sais, dans le sens, je le fais toujours un peu, là, quand même, là, je suis pas le genre à faire trop avoir là-dessus, mais là, j'étais vraiment en mode, là, incrédulité totale, là. C'était comme voyons donc. Puis là, après, mais là, ça s'est fini comme dans tout bon film hollywoodien. C'est un happy ending parce que là, Terry Gilliam, son film va être projeté en clôture.
Mais... oui, parce que là, il y a eu
qu'est-ce qui s'est passé là?
Il y a eu une poursuite au tribunal d'une société de production française du film qui voulait empêcher la projection en clôture du festival. Le jury français a tranché en faveur de Cannes. C'est ça. Et Terry Gilliam a tweeté « Ça va, je ne suis pas mort, je serai à Cannes. » Parce que là, bon, sa présence était
était compromise. Ça a pu sens, cette affaire-là.
Mais ouais. L'ovation, combien de minutes tu penses l'ovation? Moi, je pense que c'est un cas là, de même si le film il est vraiment il est un peu moyen, là, ce qui est quand même possible en plus.
Non, mais c'est,
ouais,
ça.
C'est ça. On va se le dire parce que... Terry Gilliam, là, ça fait combien d'années qu'il a vraiment fait un bon film? Là?
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Tu sais, c'est comme... Je dirais peut-être genre 12 Monkeys, c'est comme 95. Parce... Ouais, il a fait Fear and Loathing qui est correct, là, mais c'est un beau trip technique, mais on s'entend que c'est pas un chef-d'œuvre.
Non,
ça, tu sais, check sa filmographie, Brothers Grimm, Tideland, Parnassus, puis Zéro Théorème, là, c'est comme...
Il peut l'air, ouais.
C'est pas genre des... Il n'y a pas de grand film là-dedans, là.
Non, mais comme Pascal l'a dit, c'est un moment historique. Pour la même raison que l'an dernier, la projection des deux premiers épisodes de Twin Peaks, ça l'a fait l'événement.
Ouais, exact.
Puis, ouais, bon, mais Twin Peaks, c'est super bon.
C'est ça l'affaire, par exemple.
Ouais. Ouais, mais c'est surtout le fait que comme c'est le grand retour de David Lynch enfin, on l'attendait. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je serais par contre, je serais déjà de retour à Montréal lors de la projection, vu que c'est en fin de clôture. Mais il prend l'affiche, en tout cas, en France le même jour. Et on espère que le film viendra vers nous sous peu,
ben, éventuellement. Mm-hmm.
Donc voilà, alors l'un des films les plus maudits de l'histoire du cinéma, puis qui est sur le point de voir la lumière du jour. Ouais.
Mais c'est quand même excitant, Paul, parce que ça veut dire que le prochain podcast, là, tu vas pouvoir nous faire un compte-rendu exclusif de tes trouvailles et tes coups de cœur et tes déceptions de Cannes.
Ben oui, tout à fait. Ben j'ai sûrement écrit quelques textes aussi sur le site web directement.
Oui.
Puis aussi, je pense, tu sais, je vais sûrement avoir plusieurs meetings aussi, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, faut pas nécessairement s'attendre à ce que je puisse voir tous les films. Surtout que Cannes, c'est l'endroit le plus dur au monde pour voir des films, là.
Oh, ouais, mais c'est quand même une première. Tu sais, guys, ça fait quand même quoi? Ça fait 5 ans qu'on existe, là? Ça fait 5 ans? On n'a jamais eu un correspondant. Non, c'est pas vrai. Non. Sophie était allée quand Sophie faisait quelques textes avec nous, quand même. Mais un de nous trois, on n'a jamais eu.
Mais Paul, t'étais déjà allé, toi?
Ouais, je suis allé à l'époque, il y a 7 ou 8 ans. Je suis plus trop avec Chloé Robichaud.
Moi aussi, j'étais allé en 2014, mais on n'avait pas encore vraiment comment. Oui, on en avait parlé. Non, t'as raison. Puis oui, j'avais parlé de quelques films que j'avais vus. Oui, j'avais parlé du conte de la princesse Kaguya, puis... vois-tu, ça fait tellement longtemps qu'on a commencé le podcast que j'oublie qu'est-ce qui a été fait puis qu'est-ce qui n'a pas été fait. En tout cas, mais c'est quand même rare. Puis là, on va avoir une première fenêtre sur Cannes à point de vue. C'est quand même excitant. Moi, je suis excité.
Super, super. Je suis content, Pascal, que tu me partages ton enthousiasme comme ça.
Je sais que c'est.
Alors, on va s'en parler très bientôt. Sinon, c'est pas parce qu'on voyage à travers le monde hein, qu'on arrête d'aller voir des bons films au cinéma à l'ancienne. On a vu plusieurs trucs dans les derniers jours, notamment Rémi Fréchette. Oui. On est allé voir un film d'horreur qui fait le buzz en ce moment. Ou ça fait quand même un bout qui fait le buzz, là. A Quiet Place de John Krasinski.
Bon. Et Jim dans The Office qui réalise des films. On attendait juste ça, hein?
Ben oui. Ben non, mais honnêtement, OK, ce film-là...
Il a fait d'autres films avant ça, en plus, hein?
Ouais, c'est ça. C'est ça que tu me disais.
Mais comme, personne n'a entendu parler, mais... Là, il y a eu, ouais, il y a eu tout un buzz. C'est pourquoi, en fait, le film est bon, là. Je pense qu'on peut le dire de base, là.
Mais tu sais, je pense que trop souvent au cinéma, puis surtout peut-être dans le cinéma moderne, on a oublié à quel point une bonne idée peut vraiment comme faire un long bout de chemin. Là.
Qu'il y a du Michael Bay money en arrière aussi.
Ben, je pense pas que c'est vraiment ça qui distingue le film, qu'il y a vraiment juste un bon concept bien exécuté avec des acteurs qui sont très bons. Là, puis... Parce que c'est ça, Quiet Place, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, on est vraiment dans une espèce de futur post-apocalyptique, on sait pas trop. Dès la première image, on nous dit genre jour 84, mais il n'y a aucune explication. Un peu à l'image d'un... Moi, le film m'a fait un peu penser dans son exécution à 28 jours plus tard. Et dans le fond, il y a des monstres qui sont très sensibles au son, donc il faut vraiment comme plus personne des survivants, là, parce que visiblement, il y a beaucoup moins de monde sur la planète. Ne parlent de vive voix ou font le moindre bruit. Donc, on suit une petite famille, c'est ça, qui vit dans ce purgatoire, finalement, là, où ils doivent survivre en faisant le moins de bruit possible. Donc, c'est vraiment juste ça le pitch du film, c'est aussi simple que ça. Et c'est un rare film, comme moi, ça m'a aussi rappelé Gravity à l'époque, nous rappelait l'importance du son et du silence, surtout.
Ben Gravity, il y avait vraiment beaucoup de musique épouvantable.
Non, mais
c'est un peu une des faiblesses de Gravity.
Ouais, mais dès le départ, tu sais, il y avait quand même une espèce de gros plan au début de 10 minutes, là, une espèce de... c'est tout des faux plans séquences parce que c'est tout de l'imagerie numérique, là. Mais une espèce de plan où c'était vraiment silencieux, puis t'avais juste comme le George Clooney, là, comme qui flottait dans l'espace, puis qui devenait de plus en plus gros. Puis je me rappelle que le début de Gravity, là, comme les gens étaient vraiment très respectueux puis silencieux dans la salle. Puis ça faisait du bien à l'époque, ça m'avait marqué. Puis c'est un peu le même sentiment que je voyais devant A Quiet Place. C'est vraiment comme une foule attentive et tendue du début à la fin du film.
Ouais, l'expérience était cool au cinéma de l'entendre ou de pas l'entendre, en fait, là, d'être dans une salle de cinéma puis de vivre cette ambiance-là. Puis moi, en fait, ça a été un peu ma... Je le dirais avec le recul, là, ça a été un peu ma poudre aux yeux parce que j'ai vraiment apprécié l'expérience en sortant. Plus je repense au film, moins je l'aime. Là. J'ai comme beaucoup de bémols sur les personnages, sur les actions des personnages, sur le développement narratif qui se prend beaucoup au sérieux puis qui est un peu dumb. Là. Il y a tellement de trucs qui... Faut vraiment que tu rentres là comme... C'est un film d'horreur qui s'assume comme un film d'horreur pour divertir. Faut pas que tu commences à penser à toutes les actions des personnages parce qu'il y a des affaires qu'ils font pour souligner le concept qui sont, disons, un peu irréguliers. Je pense que le concept est utilisé quand ça arrange l'histoire parce qu'il y a des trucs que clairement font plus de bruit que d'autres. Il y a des trucs que clairement les personnages pourraient faire qui seraient un peu moins cons. C'est un peu un territoire à spoiler là, si je rentre là-dedans. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup de méthodes alternatives où il aurait pu juste survivre sans se faire chier. Tu sais, de base, en fait, un truc qui n'est pas un spoiler, mais ils sont dans une maison à la surface de la Terre, disons, ou qui est dans un champ, puis il faut pas qu'ils fassent de bruit dans leur maison. Mais il y a toutes sortes de manières d'isoler une maison, surtout qu'on les prend à jour, je sais pas quoi. Là, l'histoire se passe majoritairement. Je pense que c'est comme un an et demi plus tard, ça se peut-tu? Je l'ai pas sous les yeux. Là.
Je me rappelle plus exactement, mais ouais, je pense que c'est un an plus tard.
Mais tu sais, il y a quand même du temps qui est passé, là, tu sais, puis il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire pour isoler leur maison plus, en tout cas.
Ouais.
Tu sais, c'est un des trucs, mais c'est parce que le reste c'est un peu du spoiler, là, fait que je vais pas rentrer là-dedans. Mais tu sais, c'est vraiment, le film est vraiment efficace dans ce qu'il fait. Je pense qu'il a été un peu trop encensé pour son côté intelligent parce que c'est pas si intelligent. C'est juste bien réalisé puis c'est juste un bon concept.
Ouais, c'est une bonne idée, ouais, c'est ça. Ouais.
Mais je pense pas que c'est nécessairement le scénario qui soit intelligent. C'est peut-être plus la mise en scène puis la façon que le film est patient justement puis qui récompense l'attente du spectateur puis tu sais son attention au détail puis.
Moi, c'est de là, parce qu'il a été vraiment encensé le film, puis il était placé genre un des meilleurs films d'horreur de la décennie. Puis j'irais peut-être pas là, on a eu des vraiment bons, tu sais, puis on les sait à travers les années, It Follows, Babadook et compagnie. Je pense pas que c'est à ce niveau-là, ou Get Out là, l'année dernière. Je pense pas que c'est à ce niveau-là, mais reste que le film il est vraiment bon dans ce qu'il fait, puis c'est un divertissement, là, c'est un film d'horreur divertissant, puis. Ça a été. Puis qui passe vite aussi, là. Je pense que le film est 1h30. Donc, ça marche pour ce que c'est. Mais je tomberais pas dans le. C'est le film d'horreur de la décennie, là. Je m'aventurerais pas.
Mais ça aussi, c'est quelque chose vraiment qui m'a plu. Puis je reviens un peu à la critique que j'avais faite de Mom and Dad à l'époque, tu sais. C'est comme. On est tellement rendu dans. Tu sais, j'ai aussi vu il y a quelques jours, là, Avengers Infinity War, là. Puis tu sais, on est rendu dans une inflation des films, là. Tu sais, chaque film maintenant là, doit avoir genre, tu sais, comme 4 punches, puis comme plein de scènes, puis que ça finit plus, puis. Tu sais, comme des films là, comme ça, que c'est juste un concept simple et qui finit en nous en laissant, genre, comme sur notre fin un petit peu. C'est juste pour nous dire que. Comme que t'aurais aimé que ça continue un peu, mais plutôt que de te dire que t'avais hâte que ça finisse, là. Ça fait du bien, les films comme ça. Puis vraiment, à Quiet Place, la fin, là, parce que pas nécessairement ce qui se passe ou comme la manière qu'elle est écrite, mais vraiment le cut to black. Là. Comme la manière, le choix qu'ils ont fait de où couper, je trouve ça génial. Là. Puis ça, c'est vraiment comme.
Ouais, ouais, exact.
On n'a pas assez ça souvent, je trouve, des films qui nous laissent sur un high. Là, t'sais, on dirait que. Les fins, tu sais, les films maintenant, c'est comme faut que tu aies un épilogue, puis un 10 ans plus tard, puis t'expliques tout, puis que tu sais, ça devient redondant, puis ça devient inutile, tu sais. Donc, fait que c'est ça, comme plein de petites qualités comme ça, je trouve que Quiet Place, parce qu'a priori, moi, ce film-là, j'attendais pas, puis finalement, j'étais très content de l'avoir vu au cinéma. Donc, c'est ça, sans que ça soit nécessairement un film à tout casser, mais tu sais, pour. Je sais pas, moi ça a été une très belle surprise, puis je recommande aux gens très facilement.
À tout casser, ça ferait trop de bruit, de toute façon. Fait que...
Oui, c'est ça.
Je mets mes bémols, là, mais c'est juste parce que j'essaie de baisser un peu les attentes parce que je suis pas mal l'actualité des films d'horreur, j'aime beaucoup le cinéma fantastique, puis c'est comme en voyant ça dans toutes les tops là, sur les sites internet, j'étais comme écoute, c'était bon, là, mais. Puis en fait, j'ai eu le feeling que j'ai vraiment trippé en sortant de la salle, mais on dirait qu'il m'a pas autant imprégné que d'autres dans les dernières années. Là. Mais c'est bon, c'est ça, c'est bon. Là. Je suis super négatif. Là.
J'ai une de mes amies qui a partagé un texte qu'elle a reçu, quelqu'un qui lui disait dans un Quiet Place, là, est-ce que les gens ils pouvaient manger des muffins au son? Fait qu'en tout cas, je trouvais ça. Moi, j'ai beaucoup ri.
Ouais, toi t'es fan.
Oui, exactement.
Mais non, mais c'est bien, je sais que c'est un peu le... Puis c'est parce que, tu sais, ces films d'horreur-là qui cartonnent, c'est à peu près, c'est ça qui fait... Tu sais, parce que les films familiaux, on le sait que ça marche. Puis là, vraiment, les films d'horreur, c'est la commodité du moment, là. C'est vraiment, tu sais, tout le monde veut faire des films d'horreur, ou tous les producteurs, les distributeurs, les sales agents, les ci, les ça, c'est comme... Ça te prend des films d'horreur dans ton catalogue pour être sûr de vendre dans les festivals et tout ça. Tu sais, c'est vraiment. Il y a comme un retour violent là, de la valeur perçue d'un film d'horreur. Là.
Ben, surtout
tu
sais, avec pendant longtemps, l'an dernier. Là.
Mais tu sais, puis Get Out, là, un niveau modeste, mais qui a explosé. Mais tu sais, il y en a eu d'autres, mais je pense que ça a été comme une ascension progressive, mais certaine. Puis on n'est pas au bout de cette ascension-là. Fait que là, tout le monde a les yeux grands ouverts pour le prochain Get Out, le prochain Hit, le prochain hit aussi. Ouais. Fait que, tu sais...
Ben, puis quand tu vois que le nouveau film du réalisateur d'It Follows est en compétition à Cannes, ça en dit long, justement, sur un peu où est rendu peut-être le film d'horreur. Là.
Non, c'est ça. Fait que... Mais moi, je pense que là où il y a de l'argent, il y a, tu sais, des fois, l'argent précède un petit peu, là, comme les choses. Puis là, j'ai vraiment l'impression que comme le marché est tourné vers ça. Fait qu'est-ce qu'on est dans un âge d'or du film d'horreur? Moi, je pense que dans 5 ans, on s'en reparle, les chums, là, mais ça se pourrait très bien. Là. Ça se pourrait très bien.
I'm good with that. Tant que ça, arrive au Québec aussi, là, moi, tout va bien.
Ça s'en vient, ça s'en vient. On serait fou de passer à côté de ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que la marée va vers là, que le momentum va vers là. Fait qu'en tout cas, ma petite prophétie, là, c'est que dans une dizaine d'années, on va en avoir eu des crises de bons films indie américains. Pas juste américains, des bons films d'horreur indie là, dans les 10 prochaines années, là, où il va en avoir en crise, moi, je pense.
D'ailleurs, il y a justement un projet en ce moment dans le développement là, que la SEDEC vient d'appuyer là, d'un film d'horreur. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Non.
Je pense que ça s'appelle Slack ou quelque chose comme ça. Puis c'est à propos d'une paire de jeans meurtrières qui se retrouve dans un entrepôt et qui veut assassiner tous les employés parce que la compagnie est trop capitaliste ou je sais pas quoi. C'est comme... ça a l'air débile. Ça a l'air vraiment
c'est
cool.
Insane, ça.
Un projet québécois.
J'ai pas eu cette idée-là avant.
C'est un projet québécois anglophone.
C'est brillant.
Ouais, c'est, le synopsis est sorti là. Vous irez voir l'article de la SEDEC des films.
J'ai regardé, moi, vite, mais évidemment, je portais l'attention sur les gens que je connaissais, fait que c'était plus du cinéma québécois francophone. T'sais, j'avais vu le titre, mais je savais pas que c'était ça. Genre.
C'est comme
de l'horreur. Ah, ouais.
Ouais, ça, en tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Là. Sûrement à Fantasia 2019 là, ou quelque chose comme ça, ou 2020.
Là. Non, mais tu sais, ça aussi, là, il y a quelques années, on se disait tellement, ah, ça sera jamais un film SEDEC. Mais t'imagines, genre, à force. Que le marché que ce soit dissonant entre, tu sais, mettons, ce que le financement public appuie, puisque les consommateurs de plein d'autres marchés dans le monde, tu sais, justement, ben, consomment. À un moment donné, c'est comme là, il y a vraiment un. J'ai l'impression que ça se rejoint un peu d'une certaine façon, mais je pensais jamais à un niveau. OK, là, un concept de film de série Z financé par la SEDEC. All right. OK, cool.
sinon, parlant de films de genre acclamés, à juste raison, peut-être, ou pas, on va le voir, Pascal Plante.
Ah oui.
T'as vu You Were Never Really Here, de Lynn Ramsey.
Ah, oh, j'ai hâte, Pascal!
Avec
Joaquin Phoenix,
Barbu. Ben oui, exactement.
Film qu'on dit très violent, qui a joué à Cannes l'an dernier.
Oui, absolument. Et ensuite, Silence Radio, hein, on se rappelle, hein, je veux dire, Joaquin Phoenix pris de l'interprétation masculine à Cannes, puis ensuite... il n'y avait pas eu aucune bande-annonce, il y avait même pas de photo de promo ou presque là, sur Internet. C'était vraiment un des films là, qui a fait son excursion sur la croisette de façon la plus anonyme possible. Mais évidemment, les critiques étant ce qu'elles sont, ben, c'est par les critiques que l'engouement s'est fait, mais rien de généré à même l'équipe du film, pas tant en tout cas. Puis, ben, à raison, hein, le film il sort un an plus tard. T'sais, finalement, il arrive dans la foulée du buzz du Cannes de cette année, tu sais, dans un sens. Bon, est-ce que c'est trop tard? Peut-être, mais en même temps, si tous les films sortaient en même temps ou sortaient à l'automne suivant, ben, tu sais, là, ils s'annuleraient tous, peut-être encore une fois. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont joué la carte du slowpoke, là, peut-être. Puis je sais pas si ça a payé autant que ça, mais c'est parce que... La carte du slowpoke, ben oui.
Tu sais, c'est une stratégie. Tu sais, t'entends un distributeur dire « Ouais, celui-là, on va jouer la carte du slowpoke.
» Faut que tu te méfies un petit peu, là, quand même. Ouais. C'est pas une carte qu'on doit jouer si souvent que ça, là. Mais là, c'est parce que Lynn Ramsey, là, elle a eu vraiment une carrière fascinante. Déjà, je peux quand même peut-être relater un petit peu ses films précédents, puis de où est-ce qu'elle vient, là. C'est pour ceux qui le sauraient peut-être pas, au moins, ou un peu tant. Ben déjà, son premier long-métrage, c'est Ratcatcher, mais déjà là, c'est un raccourci de commencer avec son premier long, parce qu'elle a fait des courts-métrages vraiment prodigieux, que vous pouvez trouver, là, mon Dieu, sont sur YouTube, là, mais vraiment, Lynn Ramsey, c'est les chapeaux de roue, parce que ses courts-métrages sont absolument sensationnels, là, t'sais. C'est genre, dans les meilleurs shorts que j'ai vus quasiment de ma vie, là, fait que c'est elle arrive comme ça, en grande pompe, puis Ratcatcher était encore à ce jour, là, je sais que ça sonne toujours épisode quand tu dis que le premier film d'un réal, c'est son meilleur. Mais moi, Lynn Ramsey, j'avais toujours la déception renouvelée de ses films subséquents parce que c'était jamais aussi bon que Ratcatcher. Ratcatcher, c'était... mon Dieu, c'est un film super énigmatique avec des jeunes, puis une crise de déchets, puis c'est très de rue dans un bloc appartement. On dirait que c'est plus des impressions qui me sont restées. C'est un film de 99 en Bleach Pass Process. T'sais, cette année-là, il y avait eu Fight Club, qui avait été... T'sais, c'était une esthétique là, très fin des années 90.
Ouais.
Tous les films très gris et bleu charcoal. ça, c'est pré-colorisation numérique. Puis comme pendant quelques années, c'était une esthétique qui était vraiment présente. Fait que Ratcatcher, c'est beaucoup l'ambiance qui m'est restée, tu sais. Puis une exécution magnifique, tu sais, c'est une esthète. C'est vraiment quelqu'un qui sait façonner des images, mais surtout des sons. Moi, en tant que... moi, je fais un peu de conception sonore, là, ceux qui connaissent un peu le savent. Le travail de Lynn Ramsey, là, c'est une bouffée d'air frais, renouvelé. C'est comme, ah, oh, mon Dieu, le pouvoir du son... Qu'est-ce que le son... Juste des fois, c'est des petites trouvailles de transition sonore, un dialogue qui commence à un endroit qu'on s'attend pas, puis qui, tu sais, qui transitionne vers la scène suivante. C'est comme... Elle a un côté absolument joueur, et c'est jouissif, là, du côté, côté sonore. Puis dans You Were Never Really Here, j'irais même plus loin, il y a même un côté joueur avec la musique. Puis c'est pas un peu sans... Puis je me suis posé la question, mais je pense qu'il voulait sortir le plus tard possible de Good Time. Ça, c'était peut-être la stratégie aussi. Il y a quelques... Évidemment, c'est pas les mêmes films, puis évidemment, c'est très bête de les comparer ou comme ça, mais je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a quelque chose de la nuit, puis la soundtrack très cauchemardesque. C'est un gros cauchemar qui vire quasiment trip d'acide aussi, là, par moment, dans You Were Never Really Here. Mm-hmm. Mais là, je devance là, ma critique, j'en reviens un peu en arrière. Fait qu'après ça, Lynn Ramsey, elle a fait Malvern Cellar, qui est un film très oubliable. Désolé pour les fans de Malvern Cellar. Moi. Puis ensuite, elle a fait son film qui était peut-être son plus accompli au niveau technique, mais son plus idiot au niveau scénaristique. C'était We Need to Talk About Kevin, un film qui était plein de promesses, mais qui tombait à plat, moi, je trouvais, au niveau du regard du film. Ah ouais, moi, je trouve que
c'est génial, ce film-là. Moi, je la connais pour ça, en fait. J'ai pas de point de comparaison avec ses autres films, okay. Mais ça, je trouve que ça m'a tellement marqué, ce film-là. C'est... Ouais.
Ah ouais. Ah ouais. Parce que moi, je trouvais que son commentaire sur, tu sais, les jeunes qui commettent des atrocités, là, mettons qu'on essaie de rester le plus spoiler-free, mais en même temps, c'est un peu ça, le film. Je pense que c'est dur de l'éviter. Là. Puis c'est du point de vue de la mère, là, Tilda Swinton, qui est toujours évidemment très, très bonne. Là. Ça, il n'y a rien à dire jamais. Là.
Ouais.
Mais je trouvais que c'était excessivement lâche, le discours du film, là, par rapport à genre... ben oui, c'est evil, là, t'sais, c'est comme Ezra Miller qui joue le jeune dans ce film-là. On dirait que le Satan l'habite, là, puis on dirait que t'es dans le film... là. Béni soit l'enfant avec Macaulay Culkin. Là, puis là, t'es comme, my God, moi, je trouvais ça tellement idiot. Par contre, c'était un film qui était très réussi au niveau esthétique, encore une fois, sonore et visuel et montage aussi, tu sais. Qu'est-ce qu'on dévoile quand, comment. Y a un côté joueur, bref. C'est ça qu'on retient du cinéma de Lynn Ramsey, c'est qu'elle comprend son et image et. Elle n'a pas peur de brasser les cartes puis d'inventer des nouvelles règles s'il faut. Là. Et ça, c'est génial. Donc, où est-ce qu'il s'inscrit « You Were Never Really Here » Moi, c'est un film qui m'a dépassé. Je commence à les reconnaître, ces films-là. Avant, j'avais le jugement plus facile. Aujourd'hui, j'ai l'humilité de me dire que l'artiste est en avance sur moi puis j'ai de la misère à le juger. Un peu comme quand tu sors de Master, tu sais, j'étais le premier, on se rappelle, quand on avait fait le podcast à cette époque-là.
Ouais.
Quand The Master était sorti, tu sais, c'est un peu déroutant, puis ce qui était déroutant, on avait tendance à le critiquer un peu négativement, puis tout ça, puis j'ai comme commencé à les reconnaître, ces films-là, tu sais, les films que, genre, je ne sais pas si je les ai aimés, puis je les laisse mûrir avant de me faire une opinion, tu sais, genre, en gros, je ferme ma crise de gueule, tu sais, je sors du cinéma, puis je suis encore en train de digérer, là. Pis c'est vrai là, que je suis de plus en plus comme ça pour certains films. Il y a des films que je suis comme, je le sais pas. Est-ce que c'est le genre de film comme Nightcrawler que maintenant, quelques années plus tard, c'est un des meilleurs films américains des dernières années? Puis quand j'étais sorti, j'étais comme, ah, c'est pas ce que je m'attendais. Puis ah, c'était bizarre. Ah, puis on n'en sait pas beaucoup sur le personnage. Puis tu sais, ce que je percevais comme des défauts, finalement, sont devenus les choses qui sont les plus stimulantes puis deviennent ses plus grandes qualités, tu sais. Ben, You Were Never Really Here, j'ai un petit peu... J'en parle encore... À tout le moins, il faut le voir. C'est une expérience. Je pense que c'est le film le plus maîtrisé de Lynn Ramsey. C'est une leçon là, de mise en scène. Est-ce qu'il y a un excès de zèle? Est-ce qu'il y a un excès de style? C'est ça que je suis comme pas capable de me brancher.
Le film aussi a été un peu accusé d'être à peu près comme une simple relecture de Taxi Driver, puis comme qui pourrait y avoir, tu sais, comme. Où commence l'hommage et où finit la copie ou quelque chose comme ça? Là.
Ben, le style est tellement tu sais, pour citer Godard, là, on a toujours une citation de Godard à sortir de notre manche. Là. Mais tu sais, Godard, il dit au cinéma, le style, c'est la substance.
Mm-hmm.
Ben, si on se fie à cette fameuse citation de Godard, le You Were Never Really Here est un chef-d'œuvre. Or, je pense que c'est peut-être pas juste comme ça qu'on doit apprécier le cinéma. Mon point, c'est que c'est trop différent stylistiquement pour qu'on le compare au plaqué à Taxi Driver. Oui, il y a beaucoup de thématiques similaires. Mais je veux dire, pour vrai, là, moi je trouve que c'est un peu de l'étalage de culture, de tu sais, ou comment dire, ah ouais, le film est pas bon parce que comme ça joue sur les mêmes zones thématiques que Taxi Driver. Ben ouais, mais tu sais, je veux dire, mais en même temps, c'est même pas un scénario qui a aucune prétention. Déjà, je peux un peu en parler du scénario, tu sais, c'est un vétéran comme d'une guerre X ou Y, là, je sais pas, il revient de où, mais tu sais, un genre de personnage qui est un peu devenu un genre de sociopathe parce qu'il est un peu shell-shocked, là. Désolé l'anglicisme, là, comment qu'on appelle ça, mais la guerre l'a un peu anesthésié, l'a un peu
désensibilisé,
ouais. Bon, c'est ça, tout ça. Puis lui, il le fait comme un... Il prend de l'argent à faire ce qu'il fait parce que lui, dans le fond, il se ramasse à retrouver surtout des jeunes filles, mais ou des enfants disparus, mais qui sont qui se ramassent dans un gros circuit underground de traite humaine, là, de pédophilie trash vraiment dark. Là. Fait que lui, il navigue là-dedans, mais comme un peu désensibilisé. Fait que c'est vraiment difficile à regarder pour un spectateur un minimum humain, là, tu sais. Parce que tu vois vraiment des horreurs, puis tu vois comment lui, il navigue dans les horreurs comme une marche dans un parc, un peu, là. Puis ça, en soi, c'est énormément énigmatique puis troublant. Puis l'histoire, finalement, donc, ce personnage-là, c'est vraiment un portrait, là, la première 20 minutes, je te dirais, avant qu'il se lance sur une genre de mission. Puis il le fait, on dirait, comme je disais, il prend de l'argent à faire ça, mais il le fait, on dirait, comme un vigilante, là, tu sais, c'est un genre de Batman pas de soute, là, tu sais, dans un sens. Puis là, il se fait comme mandaté par un politicien, un gouverneur ou... tout est un peu flou, il n'y a rien de trop trop exposé puis trop trop clair aussi là, sur qui est quoi puis à quel niveau. Là. Puis pour retrouver ce qu'on pense être sa fille, là, donc là, il arrive dans un genre de... une espèce de underworld vraiment cauchemardesque. Et là, la sauve de là. Puis là, il y a un revirement de situation que je révélerai pas qui fait que finalement, il devient un peu traqué. Puis, vous verrez. Puis, c'est comme juste un genre d'abysse de noirceur puis de déchéance humaine, là. Tu sais, au niveau des morales et des valeurs, là. T'es vraiment comme avec les êtres les plus véreux que tu verras de ta vie, là.
Ça me fait puis, penser à, tu sais, un peu les univers de Gaspard Noé, là, qui aime bien explorer.
Ouais,
des trucs glauques, là, puis poisseux.
C'est ça, exactement. Mais toujours, comme je disais, c'est l'esthétique qui porte le film. C'est très fragmenté, c'est très, comme toujours, le son, l'image, l'immersion, à créer de la tension. Des fois, il y a juste un pulse, un rythme sonore qui va créer une tension géniale à des moments où on ne s'attend pas. Tu sais, c'est beaucoup de trouvailles. Donc, un tant soit peu qu'on est cinéphile ou cinéaste en herbe ou peu importe, là, il y a de quoi à se mettre sous la dent dans ce film-là. Mais je suis vraiment partagé, les gars. Est-ce que c'est un film qui a rien à dire au final? Je suis vraiment pas capable. Puis c'est là où j'ai comme un peu l'humilité, encore maintenant que j'en parle depuis quand même un certain temps. Je sais pas où est-ce qu'elle vient à venir. Puis je sais pas si c'est parce qu'elle est... comment dire, c'est trop intelligent ou c'est trop bête. Je suis vraiment franchement pas capable. Parce que c'est un scénario de série Z exécuté de main de maître. Non, pas série Z, mettons série B, là. Tu sais, genre Vengeance, tu sais, un peu, là, bon. Exécuté avec super gros de panache de style, de fougue, de force. Mais j'ai eu un petit sentiment de so what. Puis là, je suis encore en train de faire le puzzle, parce que c'est un peu un puzzle aussi. Fait que j'en reste là, mais voyez-le, genre, voyez-le. Pour vrai, c'est vraiment une curiosité. C'est vraiment un film qui attise certains débats. Je l'ai vu avec ma copine, on en a jasé beaucoup longtemps après. Tu sais, c'est à tout le moins, vous allez avoir cette expérience-là, là. Ça, c'est sûr.
Mettons que j'ai trouvé que We Need to Talk About Kevin, c'est vraiment bon. Est-ce que je vais aimer ça?
Ah, ben là, tu vas triper. Moi, je pense, moi honnêtement, Rémi, je pense vraiment que tu vas triper. Vois-le vraiment. Pis,
ouais, ça a l'air excellent, là, j'ai vraiment hâte.
Pis c'est un pep talk de cinéaste. Tu sais, des fois, on n'ose pas. Moi, ça me fait capoter, tu sais, genre, quand tu vois des films que ta scène est découpée master shot sur un contre-champ. Bon, ça peut être correct parce que ça peut être comme une volonté de minimaliste pour faire porter un scénario et tout ça. Là, c'est 100% l'inverse. Le scénario, là, c'est presque rien. C'est presque rien, mais on fait une excursion dans la tête d'un personnage comme sociopathe un peu, tout ça.
Ouais, ouais.
Puis c'est doublé dans son esthétique. Fait que t'es pas en train de te casser la tête avec le scénario, t'es juste en train d'être un peu en pâmoison devant le style. Puis ne serait-ce que pour ça, bordel, ne serait-ce que pour ça, c'est correct qu'il y en ait des films comme ça.
Ouais, ouais.
Fait que, ouais. Voyez-le, on s'en rejase autour d'une bière hors d'onde.
Ben oui, ben oui. La manière t'en parles, ça fait aussi penser à... Puis c'est un film aussi qu'à l'époque, j'avais été un peu, genre, ambigu. Puis finalement, tu sais, avec le temps, je pense vraiment que c'est un échec, là. Mais Only God Forgives de Nicolas Winding Refn. Tu sais que, esthétiquement, c'est malade, genre.
Ouais.
Puis là, tu sais, c'est tellement un film, tu sais, minimaliste, avec pas beaucoup de dialogue, puis comme, tu sais...
Ouais.
Fait que là, tu te dis, ah, c'est-tu comme une belle leçon de cinéma, puis tu sais... Ou est-ce que c'est vraiment, comme, creux et...
Un peu pédant, puis creux, ouais,
c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais je suis très curieux de voir ce film-là.
Ouais.
Donc, ouais, très de voir ça. Sinon, les amis... Moi, j'ai quelque chose à vous confier, OK?
Confidence.
OK.
J'ai... tu sais, j'aime beaucoup quand même le cinéma grand public, là. J'aime beaucoup le cinéma américain. Et un de mes grands plaisirs, en fait, depuis qu'on a lancé le podcast, c'est d'aller voir les espèces de gros films dont tout le monde parle, tu sais.
Ben oui.
Je me rappelle quand...
T'es toujours là, hein, IMAX, là, le premier soir.
Ben oui.
Bon, là, t'es allé voir Avengers, tu veux parler d'Avengers, là. Vas-y au point, là.
Ben, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, je me rappelle quand on est allé voir les trois ensemble, le premier Avengers, là, j'avais tellement une espèce de sentiment d'excitation. J'étais tellement excité, puis j'avais tellement l'impression d'assister à un moment historique, un peu, là. Puis ça a l'air super naïf de dire ça, puis tu sais, Disney doit être très content en ce moment, là. Mais je sais pas, j'avais vraiment l'impression qu'on assistait à quelque chose, tu sais, qu'on voyait pas souvent. Un peu, tu sais, comme des espèces des blockbuster achievements, tu sais, vraiment des grands jalons. Tu sais, un peu comme quand on voyait le premier Seigneur des Anneaux au cinéma, puis on se disait, man, ça a pas de bon sens. Voir, tu sais, la saga Harry Potter. Tu sais, c'est des univers comme ça que je suis tellement content qu'ils existent, parce qu'il y a que le cinéma, tu sais, à méga budget qui peut permettre ce genre d'aventure, tu sais, absolument boursouflée d'effets spéciaux, là.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, force est de constater que moi, présentement, personnellement, devant l'univers Marvel, puis même DC, puis tous les super-héros, je pense qu'il faut que je capitule, là, parce que...
Ah ouais, même pas là, la super-héros fatigue. T'as la super-héros fatigue.
Ouais, puis je suis vraiment comme... Tu sais, je me rends compte que c'est plus pour moi. Puis les Star Wars aussi, c'est la même chose. Je suis rendu... J'aurais tellement aimé ça, être un gros fan de ces films-là, puis de voir comment discuter, puis les réécouter, puis tu sais, geeker avec des amis, mais à chaque fois, là, c'est de plus en plus des déceptions, puis je ressens plus ça, tu sais. Le dernier qui m'a vraiment fait un bon effet, c'est Wonder Woman au cinéma.
Ouais, ouais.
Mais, tu sais, c'est rendu, le ratio entre les films que j'aime et ceux que j'aime pas est vraiment trop faible.
Ouais, ouais.
Puis, tu sais, Avengers Infinity War là, vient de briser le record du plus gros week-end de tous les temps, tu sais. Puis, je suis comme plus au diapason avec le grand public. Pourtant, il y a des. Comme justement, Quiet Place, mettons, ça fait beaucoup d'argent. Puis, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Je trouve que c'est un très bon film. Mais ça, pour vrai, je trouve que c'est vraiment médiocre comme cinéma. Tu sais, c'est quasiment. C'est quasiment rendu télévisuel. Tu sais, pas par la mise en scène ou comme les moyens déployés, mais vraiment dans la structure narrative où c'est comme... ça dure 2h40, il y a à peu près 120 scènes de 2 minutes chaque. T'as comme une cinquantaine de super-héros. Puis, tu sais, au final, c'est comme... C'est que... Tu sais, en anglais, on dit plot versus action ou genre, tu sais, comme... Parce que là, c'est juste... Dans le fond, il se passe des événements, mais... Il se passe rien dans le fond, tu sais. C'est juste des personnages qui bougent. Tu sais, qui se déplacent d'un à l'autre, qui se tapent dessus, qui vont à une autre place, qui se tapent dessus, puis qui vont à une autre place, tu sais. Puis il y a tellement plus de personnages, puis il y a tellement plus de cinéma dans ces films-là, que c'est comme un des plus gros films de l'histoire, là. Puis je le regarde, puis je suis comme indifférent, tu sais. Puis ça devrait pas être comme ça, tu sais. Il me semble qu'Avengers, j'allais le voir, puis je riais, puis j'avais du plaisir, puis je me disais. C'est donc bien le fun, mais là, tu sais, puis j'ai l'impression maintenant que, comme une série télé, là, si t'as pas vu, puis tu te rappelles pas par cœur de les 4 dernières saisons avec tout ce qui s'est passé, puis les comme 58 personnages, ben, t'es dépassé, tu sais. Puis là, nous, je suis allé voir avec un ami. Puis il y a quand même des... Je dirais rien là, pour ceux qui l'ont pas encore vu puis qui veulent comme avoir toutes les surprises. Là. Mais il y a des gros événements qui se passent dans le film. Je vais dire ça comme Puis j'étais même pas sûr, en fait, de ce qui se passait. Parce que c'est comme... Ça requiert un peu de la connaissance accumulée à force de lire les BD, puis de lire les Wikipédia, puis d'en savoir sur les personnages. Puis ça devient une espèce de gros concours de références, puis qui connaît le mieux la Bible de l'univers de tel personnage. Puis, tu sais, on dirait que c'est comme beaucoup de travail juste pour comme aller voir un gros blockbuster. Là. Puis, tu sais, mettons quand on était jeune, qu'on allait voir Jurassic Park. Puis, je sais que je fais vraiment mon oncle en ce moment, là. Mais tu sais, t'avais pas besoin de savoir c'est qui les personnages pour apprécier, tu sais, un T-Rex qui comme fait juste terrifier les enfants puis mettre un Jeep à l'envers, là, tu sais. Fait que, c'est ça, je suis juste comme, je trouve que c'est rendu vraiment des espèces de mélodrames télésérie à comme 300 millions de dollars l'épisode. Puis, je suis triste. Je suis triste de devoir faire le deuil un peu de ça, mais j'ai l'impression que...
C'est pour le mieux.
J'ai l'impression que
ça... c'est pour le mieux. Moi, les fois que je vais aller voir, c'est parce que tu m'invites au cinéma. Tu sais, Justice League, c'était le dernier, là. Fait que je finis par les voir, mais parce que tu m'invites, puis là, je fais, bon, je vais aller voir un film avec Paul. Mais là, je suis comme, je regarde ça, puis je suis comme, pourquoi je suis ici, là? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ben, Justice League, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait chialer en sortant. Mais je comprends ce que tu veux dire. Genre, Civil War, moi, je m'étais tapé 3-4 films qui me manquaient pour aller le voir. Puis là, je suis allé le voir, puis je suis sorti, je vais être comme, OK. Ben, c'était ça. C'était pas. Il n'y a pas des grosses fautes que je vais souligner parce que, tu sais, les fautes sont peut-être attribuées au fait que c'est un blockbuster puis c'est un truc qui est une question de goût, mais c'est pas maladroit, c'est juste comme, mais... Puis comment tu peux être mais devant un spectacle comme ça de 2h30 avec autant de personnages puis d'effets spéciaux? Tu sens, tu fais comme, bah, ben, c'était correct, là, je m'en souviendrai plus demain, là. Qu'est-ce que ça donne de consommer
non,
ça?
C'est ça, l'ironie. C'est ça, l'ironie, c'est que ces films-là, maintenant, ils sont dans un coin, là, pour l'expression, mais tu sais, parce que ils font des films qui rentrent puis qui sortent de tes oreilles, comme puis de tes yeux, puis que tu évacues comme rapidement, parce que c'est un peu ce que c'est. Mais en même temps, ils requièrent aussi que tu aies les références, puis que tu aies les films un peu frais dans ta mémoire. Tu sais, il n'y a pas un genre de non-sens qui fait qu'à un moment donné, ben oui, à un moment donné, tu capitules. Quand tu te rends compte qu'il n'y a jamais de reward, puis que c'est une poursuite vers l'avant, qu'il n'y a pas de finish line jamais, puis que ils vont bien te faire tourner à droite quand ils veulent que tu tournes à droite, tourner à gauche quand ils veulent que tu tournes à gauche. Ah oui, puis qu'il faut en plus que tu te retapes les autres films, aussi cons les uns que les autres. Mais non, c'est pas vrai. Il y en a certains qui sont bons, là. Puis on les nomme tout le temps. On est tout le temps en train de défendre le MCU à cause de... Finalement, à cause de combien de films, man? À cause de 4-5 films, là. Sur chier de films qu'ils ont fait, il y en a 4-5 qui sont bons. Il n'y en a pas plus que ça, là. Pas vrai, là. On va se le dire, là.
Puis on dirait que culturellement, faut les avoir vus. T'sais, là, moi, mettons le ceux que je suis en retard présentement, j'ai pas vu Thor, le dernier, puis j'ai pas vu Spider-Man, puis j'ai le dernier, puis j'ai pas vu Black Panther. Puis là, ah, mais ça a l'air que t'sais, Spider-Man puis Thor, ça c'est dans les meilleurs de ça. Fait que là, il faut que je les ai vus, ceux-là. Eux, là, c'est comme ils sont sur ma liste, là, parce que eux autres sont bons, là. Mais là, je sais plus, là, je vais-tu le regarder puis être encore comme mais. Ouais, t'sais, ça a l'air qu'eux sont bons, là. OK, ben, on va les regarder à un moment donné, là.
Ouais, puis en même temps, t'sais, j'ai l'impression que, mettons, mon discours, t'sais, ce que je peux apporter sur le film, c'est tellement rendu inutile, de toute façon, parce que t'sais, ceux qui vont... Les fans de ça, je veux dire, ils sont vendus d'avance.
Ils sont fans, c'est fini.
Puis je pense que comme les... Puis ça, dans un sens, je pense que les studios Marvel ont bien traduit au cinéma l'expérience BD, c'est-à-dire que il y a très peu de BD. Tu sais, ceux qui sont des fans de BD, ils vont pas nécessairement dire ben cette BD-là, c'est un chef-d'œuvre, puis c'est elle, il faut que tu lises. T'sais, c'est plus comme une espèce de philosophie, puis de comme non, moi je lis des BD, puis c'est le médium que j'aime, plus que mettons telle histoire en particulier. Puis on dirait que c'est comme à l'encontre d'un peu de ma philosophie de spectateur que j'aime découvrir la perle rare, puis j'aime découvrir comme le film étonnant. Là, c'est plutôt comme ben je les écoute toutes. Genre tout le temps, parce que c'est ce que j'aime, c'est les films de super-héros, tu sais. Fait que, c'est un drôle de constat, puis on dirait que, à l'heure où, justement, on essaie de ramener les gens dans les salles, puis on dit tout ça, ben, finalement, comme, le meilleur moyen qu'Hollywood aura trouvé pour, comme, amener les gens au cinéma, ben, c'est de faire de la télé grand écran, tu sais. Puis, je trouve ça tellement ironique, puis tellement weird, alors que, tu sais, des films tellement plus cinématiques... parfois font des flops totales, tu sais, ou ils ont
pas. Ben, Blade Runner, man, Blade fucking Runner.
Ouais. Puis ça, je pense que c'est un film, genre, qui va être. Moi, je pense que ce film-là va quand même continuer dans le temps. La suite de Denis Villeneuve, je pense que les gens vont le découvrir à chaque année. Faire comme, ah, pourquoi ça n'a pas été un succès à l'époque? Il me semble que c'était quand même bon.
Mm-hmm.
Ou pour l'anecdote, j'étais dans l'avion pour revenir à Montréal. Et il y avait toutes sortes de films sur l'écran. Puis il y avait également Mad Max Fury Road. Fait que je suis comme, ah, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas vu. Que je ne l'ai pas revu. Fait que là, je me suis retapé ça. Puis tu sais, là, j'étais comme, ah, ouais, des fois, là, du cinéma grand public, tu sais, avec. Du grand public, mais aussi avec des moyens, là, tu sais.
Oh, ouais.
Ça peut être vraiment fucking impressionnant, là. Puis c'est ça, je suis comme, my god, là. Mad Max Fury Road, là, on va pas faire mieux que ça, là, tu sais. Donc,
vous pouvez trouver la suite du podcast, la partie 2, où on parle de Mad Max Fury Road pendant 3 heures sur notre page pointdevue.net.
Ouais. On devrait faire le officiel Mad Max Fury Road Day, là. Tu sais, genre, on l'écoute, puis on record un podcast, genre, à chaud, tout de suite après l'avoir vu, genre.
Ah, ben, crème, tout
de suite. On fait un podcast là, sur Mad Max Fury Road, puis à chaque épisode, on parle de une minute du film. Genre, on découpe le film par minute, puis chaque épisode, ouais, c'est genre une minute de film.
C'est bon, ça.
Mais toi, Pascal, tu viens d'être invité par la FNC là, pour parler de ton film, puis de programmer un autre film, puis t'as même pas programmé Mad Max. C'est,
ben non, c'est la vrai. La balle était dans mon camp. Ben ouais, la balle était dans mon camp. Ils m'ont donné carte blanche pour programmer ce que je voulais, puis j'ai décidé de programmer The Last Picture Show de Peter Bogdanovich, parce que à la base, j'étais comme, ah ben, je vais mettre Before Sunrise, tu sais, avant mon film. Puis là, j'étais comme, ben, pour vrai, non, tu sais, dans le sens où les gens l'ont beaucoup vu, Before Sunrise, tu sais, il a une réputation dûment gagnée, Richard Linklater est beaucoup sur toutes les lèvres. Je pense que c'est un cinéaste qui inspire une nouvelle génération de cinéastes aussi. Et comme, même si oui, il arrive des débuts des années 90, il est encore hyper pertinent, puis d'actualité, puis tout ça, puis les gens le redécouvrent à qui mieux. Puis The Last Picture Show, ben, tu sais, c'est un film qui, à moins de le ramener un peu dans la conversation, ben, il l'est pas plus que ça, alors que tu sais, c'est un super bon film. Puis pour plusieurs raisons, ouais, j'ai décidé de programmer lui. Puis ça va être le 23 mai, hein, fait que j'en profite. Puis, by the way, c'est pas obligé de faire le programme double. Tu peux juste venir voir The Last Picture Show. Je fais juste une petite introduction du film avant, là, pour dire un peu qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que j'aime dans ce film-là. Puis après ça, go, on écoute le film. Puis après ça, c'est, ouais, projection commentée, des faux tatouages. Mais non, j'ai pas décidé de mettre Mad Max Fury Road. Ça aurait été un... Tu sais, Mad Max Fury Road, puis les faux tatouages après... Hey, mon film, il a l'air long, man.
Il y a le bon de mon
film. Est-ce que t'as pas de cash, man? Retourne chez vous. Fait que sur ces belles paroles, les chums.
Oui, ben voilà, c'était notre point de vue cette semaine. On va aller écouter la bande-annonce, justement, du film.
De Mad Max Fury Road.
Non,
ça serait drôle.
Hein. On va aller écouter la bande-annonce du film How to Talk to Girl at Parties de John Cameron.
Oh, yeah! Job.
Et qui sera donc au cinéma du Parc, précédé du court-métrage Merveilleuse d'Hélène A grâce au projet Plein Écran.
Bon.
Donc, on fait un petit plug, hein, bien sûr, hashtag capitalisme. Hashtag convergence.
Tu fais tellement de cash avec Plein Écran.
Oui, exactement.
Un festival sur Facebook, ça fait du
tout,
cash.
Tout dans les poches à Paul. Tout dans les poches à Paul.
Ben oui, c'est
pour qu'il mange des crevettes à Cannes.
Ouais, avec l'argent des contribuables. Donc, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landreau, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Leplante.
Hello.
Welcome.
They must be from California.
It's gonna be all right. Just corner the one that looks the loneliest and speak in short sentences.
Hello, my name is N. It's short for Henry.
I'm Zan.
Now that is punk.
Do more punk to me. What do your people do on an ordinary day?
We do what we want.
Have you no restrictions?
This is unprecedented.
We're gonna get out of here.
That was the future.
And I can come with you to the punk. I have 48 hours. I never thought
I'd make my way. What are you bringing Ari for?
I slept at his house and met his mom.
Sorry, love.
It's my first time at this. It's taking longer than I expected. And we engaged in incomplete sexual activity.
Ready to come home, yet?
She's not normal. None of them are.
I bet they participate in some bizarre sex rituals.
No.
How do you know that?
I just don't see it happening.
You have less than 24 hours to rectify the situation.
You're in extreme danger. We have to leave now.
I feel alive. I feel open.
Sam needs hope.
We'll need backup.
You think you can just swallow us up? Rise up, my children!
We may have cocked this planet up royally, but at least we're alive. We like to eat, we like to dance, we like to fall in love. And we try and fix what our parents screwed up. Are you lot with me?